pop-fascisme. Je dirais que je parlerais des gens un peu fascistes décomplexés. Non, c'est pas ce que j'observe, c'est ce que j'imagine veut dire le titre.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures désormais pour décrypter notre époque avec un éclectisme dans le choix de sujets qui fait la force et la réputation mondiale de notre rédacteur chef Cyril Lacarrière, puisque Zoom Zoom Zen est la seule émission mêlant journalisme et humour où l'on peut passer de Goldorak à Mussolini en un claquement de doigts. De la dernière série Netflix à la mode, à Papa Schulz. Et aujourd'hui, c'est un peu le mélange des deux qu'on vous propose, puisqu'on va zoomer en compagnie de ceux qui ont inventé cette notion sur le pop-fascisme. Cette idée que l'extrême droite contemporaine, en adoptant les codes de l'époque, notamment les réseaux sociaux, est en passe de remporter la bataille culturelle sur Internet. Une analyse très dérangeante pour Cyril, qui est évidemment partagée. Entre d'une part ses convictions progressistes, ce gauchisme forcené si bien dénoncé par les détracteurs de notre émission qui voient en lui la taupe, le cheval de Troie de Philippe Poutou à France Inter, et de l'autre, le souvenir de son grand-père, Helmut Lacarrieren, pilote émérite de la Luftwaffe, et qui, après s'être craché du côté de Ponto Combo au 44 en hurlant
fuck Hollywood,
avait été contraint de se faire passer pour un Seine-et-Marnais pur jus qui avait juste oublié le français juste suite à un choc à la tête. Cyril, qui est très famille, conserve précieusement ses cendres dans un Tupperware avec ce post-it « Ne pas toucher, tonton Helmut ». Alors, comment le fascisme, jadis ringard, a-t-il réussi à redevenir tendance auprès des jeunes? Quelles sont les ficelles de ce pop-fascisme que dénoncent nos invités? Est-il déjà trop tard pour contrecarrer l'influence de l'extrême droite sur les réseaux? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Pierre Plotu, Maxime Massé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'extrême droite. Vous dirigez d'ailleurs la newsletter de l'IB consacrée à l'actualité de l'extrême droite. Ça s'appelle Frontal.
Abonnez-vous.
On va s'abonner. Sacré boulot de votre côté en tout cas. Et vous publiez donc Pop Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet. C'est aux éditions Divergence. Vous allez nous dire en quoi consiste ce pop fascisme. Juste le temps de vous présenter mes petits camarades, à commencer par celle sur qui je vous invite à enquêter. Vous qui êtes spécialisé dans l'analyse des réseaux d'extrême droite, je vous suggère urgemment de vous pencher sur son cas. C'est très simple, vous commencez par taper Carole Buisson sur Google. Vous découvrirez que Carole Buisson est une fervente patriote très active sur le site de rencontre Droite au cœur. Vous découvrirez ensuite, via son adresse IP, que cette Carole Buisson n'est autre que Manon Mariani, journaliste sur France Inter, qui aurait pris ce pseudo, je cite, pour infiltrer les réseaux identitaires. Des réseaux qu'elle a peut-être effectivement bien infiltrés, mais comme l'article n'est jamais sorti, on est en droit de s'interroger sur les véritables motivations de celle que son ami Éric Zemmour appelle affectueusement la Buisson. Manon Mariani, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Je vais faire une chronique sur Droite au cœur.
Je vais la faire quand même.
Ils ont fait l'investigation.
Je me demande si ça n'a pas fermé. Bon, je vais me renseigner.
Ça en passe.
C'est en passe de fermer. Ah, il faut vite sortir l'article.
Trop tard pour Carole.
Manon, chaque après-midi, vous nous permettez d'aller plus loin sur notre sujet avec la personne à suivre.
Une anti-héros d'une série Canal+, qui s'inspire d'une influenceuse conservatrice française très controversé.
Pour une fois, je connais les deux, là.
Bien, Mathieu.
Face à vous, messieurs, lui aussi, il connaît bien le fascisme. Je dirais même qu'il le connaît de l'intérieur, puisqu'il vit depuis 2 ans sous la dictature de Cyril Lacarrière. Le Pol Pot potelé, comme il l'appelle, en cachette, bien sûr, sinon il s'exposerait de terribles représailles.
C'est lui, Cyril.
Ah, bien sûr, Quentin. Oui.
Comment ça?
C'est vous. C'est vos mots.
Vous
l'avez appelé le père Dodu, tout ça, on sait.
C'est bien d'ailleurs, ça devrait revenir. Ça
enlève ton doigt.
Il faut dire que je vous pointe du doigt et pas autre chose, Cyril, parce que comme on est en radio, on peut imaginer tout et n'importe
c'est
quoi.
C'est pas possible.
Hein. Quentin, chaque après-midi. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors, le pop-fascisme, ça les a inspirés.
Allez, je vais essayer de rebondir après Le titre du livre intrigue, comme les mots pop et fascisme qui peuvent se trouver l'un à côté de l'autre. Et pourtant, les extrêmes, leur présence sur TikTok et la droitisation de la France, un micro-trottoir complètement à la rue dans la prochaine demi-heure, Mathieu.
Vers 16h30, si depuis quelques années, l'extrême droite tente d'adoucir son discours, de chasser ses brebis galeuses pour accéder au pouvoir, certains dirigeants populistes, eux, n'adoucissent rien du tout. Le Zoom Zoom Test nous entraînera à la découverte des déclarations les plus tonitruantes des aficionados du fascisme, de Bolsonaro à Carole Buisson. Juste avant 17h, c'est Lucie Carbone qui nous rejoindra. Mais d'abord, zoomons donc sur cette notion intéressante de pop-fascisme. Depuis quand l'extrême droite se sert d'Internet pour diffuser ses idées, Pierre Plotu, Maxime Massé?
Depuis les origines. Je parle sous ton contrôle, Maxime, mais...
et je vais essayer d'être un tout petit peu plus sérieux, je suis désolé.
Allez-y Pierre.
Le Rassemblement, enfin le Front National à l'époque a été le premier parti politique à avoir son blog, par exemple son propre site internet. Mais on voit aussi immédiatement, dès le tournant, le début des années 2000, hein, se développer des sites qui donneront plus tard F de souche, des forums qui deviendront plus tard le JVC, le jeuxvideo.com, le blabla. 18, le forum général.
18-25, voilà.
Ouais. Merci, le 18-25, excusez-moi. L'extrême droite, elle a investi immédiatement Internet. Pourquoi? Parce qu'elle y a compris tout de suite un intérêt majeur, c'est de désintermédier le contact avec le lecteur, avec l'auditeur, mm-hmm. avec les Français. Nous, ici, autour de cette table, journalistes, on pose des questions, alors peut-être pas vous, mais qui gênent, mm-hmm. qui... Pardon, c'était une pique, mais...
C'est ah, oui, absurde. Ah oui, oui, vous avez dit le mot journaliste. Moi, je suis un comique, donc je sais pas, vous parlez peut-être de série de la carrière, mais pas de moi.
Voilà, nous, on est là pour porter la plume dans la plaie. On est là pour poser les questions qui gênent, pour essayer de comprendre comment ça se passe, pour essayer de mettre en perspective, etc. L'intérêt d'un blog, l'intérêt d'un influenceur qui parle directement à sa caméra, à un internaute, c'est que tout ça, c'est complètement bypassé. Et on rentre directement dans l'esprit des gens.
En bout de table, il est évidemment un démocrate convaincu, sauf concernant le fonctionnement interne de Zoom Zoom Zen, où il estime que c'est mieux qu'il décide tout seul et qu'on exécute sans broncher. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu, mais vous vous trompez, je ne suis pas démocrate moi.
J'essaye de sauver ton job.
Rappelle-toi mon livre, Le Management Totalitaire.
Ah, c'est vrai, ça.
Ça, c'est mon
qui
bureau.
Qui trône sur votre bureau. C'est vous qui l'avez écrit.
Sous un pseudo. Alors Cyril, dites-nous, même si j'ai ma petite idée, le pop-fascisme, d'où ça sort?
Eh bien voilà une association pour le moins inattendue. En général, quand on pense à la pop, on pense à ça. Michael Jackson, le roi de la pop, ou vous pensez peut-être à lui.
Pop just means...
Le pop art, c'est ce que les gens aiment de leur époque. C'était Andy Warhol, figure du pop art. Tiens, vous serez ravis d'apprendre que c'est au critique anglais Lawrence Holloway qu'on doit d'avoir popularisé l'expression pop art au milieu des années 50. Car si Warhol est américain, c'est bien en Angleterre que ce courant a vu le jour, mais c'est aux États-Unis qu'il a explosé. Roy Lichtenstein, Jasper Koons, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Jeff Koons. Même si vous n'êtes pas familier ou amateur de pop art, ces noms vous disent certainement quelque chose.
Mais sauf qu'on ne parle pas de pop aujourd'hui, c'est
vrai. Non. Bien vu, pop fascisme, quelle idée aussi, messieurs. Pour le fascisme, c'est du côté de l'Italie qu'il faut regarder, chez ceux qui nous ont volé la Coupe du Monde en 2006.
Ah, ça.
C'est là qu'est apparu ce terme et ce courant politique. Fascisme qui vient de fascismo, et on le doit à Benito Mussolini et à son mouvement d'extrême droite qui a gouverné l'Italie de 1922-1944. Alors comment Mussolini et Warhol ont pu se retrouver réunis dans une même expression et dans un même bouquin? Qu'est-ce que la pop a apporté au fascisme? Comment le fascisme utilise les codes de la pop? Qu'est-ce que le pop fascisme? Est-ce que l'extrême droite a définitivement gagné cette bataille culturelle sur le net? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Pop fascisme, c'est donc le titre du livre de Pierre Plotu et Maxime Massé, journalistes à Libé, qui sont nos invités cet après-midi. Comment il vous est venu ce titre, ce néologisme pop fascisme, Maxime?
Eh ben, en fait, c'est assez simple. D'abord, effectivement, c'est un clin d'œil au post-fascisme de Giorgia Meloni. En fait, le post-fascisme de Giorgia Meloni, il est là pour rappeler les origines extrêmement radicales du mouvement qui est actuellement à la tête de l'Italie et qui tire effectivement ses racines du fascisme italien originel. Ensuite, on voulait rappeler que derrière ces individus, ces sites internet, il y avait surtout l'augmentation de l'accessibilité des idées radicales sur internet. On peut le voir, par exemple, avec la notion de grand remplacement, qui est effectivement une notion qu'on trouvait sur Internet il y a une dizaine d'années dans d'obscurs blogs reprenaient la pensée de Renaud Camus, certes bien plus ancienne que ça, mais on s'est rendu compte au cours de ces 10 ans que ce mot, ce terme, cette idée fausse que la population européenne est en train de changer et de changer avec un apport de personnes immigrées, on le retrouve dans le débat public. Et justement, en fait, on s'est rendu compte que les cultures qui avaient été pop à leur époque, elles avaient commencé en étant underground pour devenir mainstream, en fait. Et là, deux anglicismes
d'un coup.
Ça fait beaucoup trop. Et en fait, on essayait de montrer que effectivement, il y avait des idées underground très radicales à l'extrême droite qui sont devenues mainstream et qu'on entend même dans la bouche de dirigeants de la droite dite républicaine.
C'est le principe de la fenêtre d'Overton. On met des grands coups.
J'ai un truc.
L'élargissement du champ du disciple dans le débat public. En fait, en sortant des énormités, par exemple le grand remplacement, la population de souche est en train d'être grand remplacée, au départ ça choque. Et puis ça choque de moins en moins, et puis ça devient quelque chose qu'on peut dire, et ça devient quelque chose qu'on peut récupérer, sur lequel on peut surfer. Et donc ces influenceurs, ils jouent ce rôle de boutoir, de fer de lance, pour élargir cette fenêtre. Mais il y a une deuxième partie aussi dans ce titre, qui s'appelle Pop Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet. Cette partie, elle est volontairement provocatrice, elle est volontairement un peu choc. L'extrême droite, elle a gagné la bataille à ce stade sur Internet, mais l'exemple notamment des législatives anticipées nous démontre que inverser le récit, que la capacité de la gauche du camp progressiste à pouvoir contrecarrer l'extrême droite et son hégémonie actuelle sur Internet est presque, j'ai envie de dire, en fait, ce serait une évidence si elle était organisée. L'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet, oui, mais la guerre n'est pas finie.
France Inter.
Pop fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet, mais pas la guerre, hein, on l'a dit. C'est le titre du livre de Pierre Plotu et Maxime Massé qui vient de paraître aux éditions Divergence. Messieurs, entrons dans le détail de votre livre. Comment l'extrême droite a pris possession des réseaux sociaux? Pourquoi on les voit plus que d'autres sur les réseaux sociaux? C'est très bien organisé?
Alors, d'une part, effectivement, c'est très bien organisé. Ils savent très bien se donner des coups de main entre eux, pousser en fait leur narratif et céder en se mettant à chacun à disposition leur communauté respective. Mais il y a aussi un truc qui est très important, c'est le fait que l'algorithme ou les algorithmes qui tiennent les réseaux sociaux ont tendance à mettre bien plus en avant les contenus qui créent du débat, qui sont clivants. Et il est évident que les discours extrêmement réactionnaires et conservateurs des influenceurs de la fachosphère sont clivants. Et on en a eu un exemple il n'y a pas longtemps avec la publication d'une vidéo par un influenceur qui s'appelle le Raptor, qui est revenu après 2 ans de silence sur YouTube avec une vidéo climato-complotiste qui a fait 700 000 vues depuis à peu près une quinzaine de jours. En fait, il y a eu beaucoup plus de réponses argumenté et de fact-checking sur cette vidéo que de soutien de la part de la fachosphère. Mais son objectif, c'était surtout de faire parler de lui. Et en prenant un thème volontairement clivant et sur lequel il dit des énormités, il a réussi son coup, puisque les gens qui ont de bonne foi répondu à ses arguments lui ont fait de la publicité.
Mais ce qui a changé aussi, c'est qu'avant, la fachosphère, on disait qu'elle était surtout sur Twitter, sur X aujourd'hui avec Elon Musk, alors que c'est plus le cas aujourd'hui. Elle est aussi sur TikTok, sur Instagram, etc.
Oui, ça reste quand même X, et anciennement Twitter, reste quand même un vecteur, un outil très important. Le Raptor, par exemple, quand il publie sa vidéo, il réactive au passage aussi son compte Twitter, où il a 190 000 abonnés, notamment aussi parce que Twitter, depuis son rachat par Elon Musk, est devenu une espèce de paradis libertarien, une espèce de paradis de la fachosphère. On peut tout y dire, on peut tout y faire, il n'y a plus de problème. Donc après, sur l'utilisation des différents canaux, ce sont des professionnels de la communication en ligne. Ce sont des influenceurs au sens premier du terme, il y en a certains, d'ailleurs aussi au sein de la fachosphère, qui se servent des réseaux sociaux pour conquérir une clientèle, vendre des choses, et qui pour cela vont aller chercher tel canal, par exemple TikTok parce qu'il parle aux plus jeunes, X parce qu'on peut y dire plus de choses, YouTube parce qu'on s'adresse aux gens directement en face à face et donc ils ont l'impression de vous avoir dans son salon, etc. etc. Et les messages, enfin les modalités du message vont être différentes, mais le message restera le même. Oui.
Quentin ? Ils sont complices, de fait, les réseaux sociaux, de porter un message qui pourrait être plus positif, plus constructif, moins clivant.
C'est effectivement une vraie problématique. Avant son rachat par Elon Musk, Twitter avait fait un grand ménage, à la fois chez les influenceurs d'extrême droite anglo-saxons, qui avaient vu pour la plupart, et pas pour les plus importants, leurs comptes supprimés. En France aussi, ça avait été le cas. On pense notamment à Dieudonné ou à Alain Soral, qui se sont vus supprimer leurs comptes Twitter assez rapidement. Ça arrive au moment où il y a une problématique sur la propagande djihadiste sur Internet. Et notamment au début des années 2015. Et là, en fait, Twitter se rend compte qu'il y a un vrai problème et que les discours de haine ne se limitent pas du tout en fait à la pensée djihadiste.
D'où le besoin d'aller chercher, de créer des plateformes alternatives. On peut penser à Gab, à Parleur, tout un tas d'autres, dont les noms vont m'échapper là, forcément.
Même Telegram.
Alors, Telegram, c'est encore une autre problématique. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes métriques, on n'est pas sur le même mode de fonctionnement, mais ce besoin de pouvoir dire les choses sans filtre, à un moment donné, cette capacité à pouvoir dire les choses sans filtre, la modération a vraiment fait son, son boulot.
Sur YouTube aussi, notamment.
On peut parler de YouTube, on peut parler de Facebook, on peut parler... Voilà. Après, notamment sur Facebook, parce qu'il y a eu un manqué, un raté phénoménal qui a vraiment fait beaucoup de bruit. Brenton Tarrant à Christchurch, donc qui assassine 51 fidèles musulmans dans deux mosquées, deux lieux de culte musulmans différents en Nouvelle-Zélande, à l'arme automatique, en se filmant, diffuse les images en direct sur Facebook, et c'est vu par des millions de personnes. C'est repris, c'est repartagé, etc. Facebook n'arrive pas à empêcher. Et donc, il y a aussi des moments comme ça qui ont montré, tu as parlé de l'exemple de la propagande de l'État islamique, parce que les propagandes extrêmes sont une problématique pour les réseaux sociaux dans leur ensemble, pas seulement l'extrême droite, mais c'est aussi ce cas-là pour Facebook, etc. Ces outils sont devenus un média tellement important, tellement dominant, tellement indispensable, on en parlait tout à l'heure, notamment du fait de leur désintermédiation, qu'ils sont devenus très utilisés et qu'ils se sont eux-mêmes rendus compte. Après, il ne faut pas se voiler la face. Il y a aussi peut-être, de la part de ces grandes plateformes, une volonté d'agir avant que la loi soit modifiée pour le leur imposer.
Et vous, chez vous, cette percée des idées d'extrême droite sur les réseaux, est-ce que vous la ressentez? Est-ce qu'elle vous inquiète? Est-ce qu'elle vous enchante? Si vous êtes d'extrême droite et que vous écoutez France Inter, on ne sait jamais, tout arrive. Quant à lui, c'est sous une pluie battante que vous êtes parti montrer le livre de nos invités aux gens dans la rue.
Et ma première rencontre, c'est Frédéric, 59 ans, il est entrepreneur, il découvre le titre du livre de Maxime Massé et Pierre Plotu.
Pop fascisme. Je dirais que je parlerai des gens un peu fascistes décomplexés.
C'est ce que vous observez ?
Non, c'est pas ce que j'observe, c'est ce que j'imagine veut dire le titre.
Je lui lis un extrait de la quatrième de couve qui vaut le détour quand même. Grand remplacement, immigrationnisme, bataille de civilisation, les mots de l'extrême droite et ses obsessions racistes ont envahi les débats politiques et médiatiques grâce à un intense combat d'influence mené par la fachosphère, ça c'est la quatrième de couverture. Cet écosystème coordonné, préparé et interconnecté a permis à ces idées de se répandre dans toute la société.
Moi, je suis, je suis assez d'accord avec ce que vous voulez dire, ouais. Mais je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut traiter. Il faut déjà en parler, accepter de dire la vérité, dire les faits. C'est Camus qui a dit ne pas dire la vérité, c'est ajouter du malheur au monde. Donc, il faut dire la vérité et ensuite arriver à voir comment traiter. Et les solutions ne sont pas simples.
Ça vous inquiète ou pas, ça ?
Non, moi, ça m'inquiète pas plus que ce que fait LFI et compagnie. Hein. Moi, je mets les deux un peu sur le même plan, objectivement. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont choqués par ça, mais moi, ça me choque pas trop.
Alors, est-ce que vous rendez hommage à Albert Camus en disant les mots de notre époque et n'en l'étaisant pas ? On verra. Ces deux copines sortent de cours.
Bonjour !
Bonjour !
Vous avez quel âge ?
22 ans.
22 également.
Qu'est-ce que vous faites, toutes les deux ?
On est en école de commerce à Liesseng.
Elles découvrent le livre. Comment ces deux vingtenaires voient les idées d'extrême droite se répandre sur les réseaux sociaux ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une extrême droitisation du pays ?
Non, honnêtement, quand on voit les résultats des dernières élections, on voit qu'il y a clairement trois blocs qui s'identifient. Donc, les extrêmes, entre guillemets, avec le nouveau Front Populaire et puis le Rassemblement National. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les deux tendances, en tout cas, plutôt les Républicains et avant les Socialistes, tendent à s'extrémiser, entre guillemets. Mais c'est un peu l'effet Macron, quoi.
Avant de les laisser filer, je leur parle de Jordan Bardella, qui cartonne sur les réseaux.
Non, honnêtement, je pense que il essaye d'attirer une certaine cible jeune parce qu'il comprend que ça peut être un électorat potentiel.
Il y arrive ? Vous, par exemple, vous le suivez ?
Ouais, moi je le suis sur TikTok, quoi.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je considère que des fois, il n'a pas les propos qui sont très politiques et qu'on dirait plutôt quelqu'un influenceur ou une personne plutôt classique. C'est une stratégie, on sait très bien. Enfin, en tout cas, moi,
être l'ami. Des jeunes, entre guillemets, et donc avoir les références des jeunes en faisant des TikTok, des trends.
Maintenant, je pense qu'il a l'air de réussir. Après, je ne sais pas si c'est vraiment sa place d'être sur TikTok.
Je traverse la route. Karine tient son parapluie comme elle peut, casquette noire et tour de cou de sport.
Bonjour.
Comment ça se passe sous la pluie ?
Oh, agréablement.
Vraiment ?
Oui. Le soleil, c'est bien, mais les deux, c'est bien.
Bon, maintenant qu'on a parlé de météo, je vous fais lire le titre de ce livre-là.
Pop-fascisme.
Nous parlons de la banalisation des idées extrêmes et de la droitisation des débats.
La droitisation, elle commence quand Le Pen arrive avec ses députés à l'Assemblée nationale, il y a longtemps.
Comment vous avez réagi à l'époque ?
J'étais inquiète et indignée, mais après, le mécontentement des gens, il est aussi réel et qu'ils peuvent voir dans le Rassemblement national une solution. C'est ça la complexité. Et puis, c'est pas que français, c'est très répandu, notamment en Europe. Donc, oui, le repli sur soi par pays, en pensant que si on enlève les autres, ça ira mieux.
Finalement, dans la rue, on s'est un peu habitué à ces idées qui choquaient il y a 30 ou 40 ans, des propos slogans qui se répandent et que beaucoup ont voulu contrer au second tour de l'élection présidentielle en 2002 et à nouveau en juillet dernier. Visiblement, le barrage tient encore, mais pour combien de temps ?
Les journalistes Pierre Plotu et Maxime Massé sont avec nous cet après-midi dans Zoom Zoom Zen pour zoomer sur ce pop fascisme qui se répand sur les réseaux sociaux. J'ai envie de rebondir sur cette dame qu'on entendait qui n'avait pas l'air si inquiète que ça finalement. Elle avait dit la droitisation de la France. De toute façon, ça remonte au moment où le FN a envoyé les premiers députés, ses premiers députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous irez dans ce sens-là ou vous direz qu'il se passe quelque chose là récemment qui fait qu'on est basculé dans autre chose, que les idées de l'extrême droite ont infusé plus profondément dans notre société? Est-ce que vous pensez qu'il y a un changement récent là-dedans?
Oui, une accélération, elle est évidente. Je veux dire, on est passé de deux députés, Marion Maréchal et Gilbert Collard, il y a quelques années, à un bataillon de 136 aujourd'hui. On est, alors certes, les élections législatives, ça a été évoqué. Ouais. Alors, je partage pas tout à fait cette lecture, et je crois que c'est pas le cas des gens qui travaillent sur la politique, avec le nouveau Front populaire qui serait extrémiste. Ça aussi, c'est quelque chose que dit beaucoup l'extrême droite, notamment Maxime et moi, nous serions l'ultra-gauche, black bloco, antifa. Ça fait partie des choses qu'on entend très régulièrement. Diaboliser l'autre pour soi-même apparaître beaucoup plus lisse, c'est un classique. Et donc oui, pour en revenir à ce que vous disiez, il y a les députés, mais il y a aussi... en fait, nous, on le voit que les métriques, les abonnés, les vues, les choses comme ça de la fachosphère, englobons le tout dans ce terme, s'accélèrent énormément et ont atteint des niveaux qui sont très impressionnants.
Est-ce que c'est pas dû aussi à des personnalités publiques, je pense à Cyril Hanouna ou Pascal Praud, elles ont un rôle aussi dans ce que vous appelez le pop-fascisme aujourd'hui ?
C'est la fachosphère 2.0. Pardon Maxime, c'est la fachosphère 2.0. On est sorti d'Internet pour arriver à la télévision. On va prendre l'exemple, par exemple, de Valeurs Actuelles, dirigé par Geoffroy Lejeune, désormais à la tête du JDD, grand magazine. Valeurs Actuelles comprend que ça se passe sur Internet et crée VA+. Donc la division vidéo à destination des réseaux sociaux et d'Internet de son journal. Ça cartonne. Ça cartonne vraiment, à tel point que ce qui était créé à la base par deux stagiaires devient un vrai service, pour de vrai, devient un vrai service, recrute des gens, etc. Et adopte les codes des influenceurs. En fait, VA+, est devenu une forme d'influenceur. Mmh. Et Cyril Hanouna, c'est exactement ça.
Merci. Et surtout, en fait, ils comprennent très rapidement que ces influenceurs, ils ont un public, donc ils les invitent. Ils les invitent très rapidement et quand on regarde la chaîne de VA+ sur YouTube, on se rend compte que les vidéos qui ont fait le plus d'audience, c'est lorsqu'ils ont invité des influenceurs d'extrême droite. Et de la même façon, je pense que Cyril Hanouna a parfaitement compris que ces gens avaient un public et qu'il fallait les faire venir dans son émission. Parce que effectivement, on se rend compte qu'il y a peut-être un désintérêt des jeunes pour la télévision, disons, à l'ancienne. Et ben, en faisant venir des gens dont on consomme normalement le contenu sur Internet à la télévision, on attire à soi aussi un autre public.
La première fois où on voit Thaïs Descuffons à la télévision, c'est chez Cyril Hanouna. On parle de quelqu'un à ce moment-là qui est porte-parole, cadre, figure de Génération Identitaire, qui a un mouvement d'extrême droite radicale, qui a quelques milliers d'adhérents et qui fait des grands coups d'agite propre, etc. Ça n'a aucun sens d'inviter cette jeune femme pour parler au nom de son
sinon
mouvement
pour faire
politique.
De l'audience.
Oui, exactement. Et tout à l'heure, on a été un tout petit peu vite, c'est de notre faute, en parlant d'interconnexion. En fait, aujourd'hui, vous allez avoir des influenceurs sur Instagram, des influenceurs sur YouTube, parfois sont les mêmes, des fois non, mais vous allez avoir des gens qui sont à la télévision, des gens qui sont dans les journaux. La bolosphère a notamment accéléré ce processus-là. Et aujourd'hui, il y a aussi des rédactions de grands médias, on peut encore en parler là, mais qui à l'intérieur, tout le monde s'émeut du fait que on voit arriver une nouvelle génération de gens qui sont biberonnés de ces idées-là.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Moi, Jordan Bardella, c'est où il veut, quand il veut. Écrivait Carole Buisson sur le chat du site de rencontre Droite au cœur en janvier 2021.
Sacré Carole,
hein. Alors qu'on zoome aujourd'hui sur le pop-fascisme, je vous propose un quiz sur les déclarations extrémistes les plus incroyables de ces dernières années. Jouons en éloignant les enfants au Zoom Zoom Test. Un quiz qu'on va démarrer avec un personnage politique qui n'est plus au pouvoir et qui a laissé un grand vide à la table des Nations Unies où il avait ce don inouï de rendre Bachar el-Assad sympathique. Manon, Quentin, vous vous souvenez certainement de Jair Bolsonaro. Carole Buisson, elle, en tout cas, s'en souvient. Elle avait un poster dans sa chambre. Nous sommes donc à Rio de Janeiro en février 2011, décidant que le Covid, on s'en fout, que c'est une blague ou le président brésilien savoure le carnaval en compagnie de quelques amis, comme le futur président argentin Javier Milei et Adolfo Lacarrière, un oncle de Cyril qui avait émigré au Brésil en 1945. Durant cette soirée, de nombreuses énormités seront prononcées. Mais attention, car, question énormité, Jair Bolsonaro est un cador. D'après vous, parmi les phrases suivantes, lesquelles sont des déclarations authentiques de l'ancien président brésilien? Je serais incapable d'aimer un fils homosexuel. Je préférerais que mon fils meure dans un accident plutôt que de le voir apparaître avec un moustachu. L'erreur de la dictature? Avoir torturé sans tuer. Ou les handicapés, c'est comme les lépreux et les noirs, il y en a des biens.
Les trois.
Non, je vous donne l'opportunité d'une...
A et B.
Une catastrophe.
A et B.
La première. La dernière est fausse, c'est une citation de Didier Super.
Et donc c'est Maxime qui remporte le point. Oui, fort, effectivement c'était A et B, il y avait un piège. Mais, car
les handicapés, c'est comme les lépreux et les noirs. Les clochards, c'est comme les travelots et certains jeunes.
C'est une... c'est une chanson de Didier Super.
Bah oui,
mais restons en Amérique du Sud, on y est si bien, nous dit Cyril. Et quoi de mieux qu'une chanson péruvienne pour restituer toute la magie et la singularité de l'Argentine? Comme le disait Lino Ventura, l'homme de la pampa parfois rude reste toujours courtois. Sauf Javier Milei, l'actuel président argentin, grand fan de Donald Trump, fervent nostalgique de Bolsonaro, il réussit le prodige d'être pire que les deux réunis. D'après vous, laquelle des déclarations suivantes est vraiment de lui? Entre la mafia et l'État, je préfère la mafia. La mafia a des codes, elle tient ses engagements, elle ne ment pas, elle est compétitive. L'État, c'est un pédophile dans une école maternelle avec des enfants enchaînés et enduits de vaseline. Ou la vente d'organes, c'est un marché comme un autre.
C'est les trois.
B et C.
Les trois.
Ah là là,
bonne réponse de Pierre. Ils sont trop forts. Mais oui. Mais oui.
On a intérêt de gagner parce que sinon.
Celui qui pendant la campagne avait harangué la foule avec une scie sauteuse semble n'avoir aucune limite. Chez nous, les extrémistes sont quand même plus feutrés, presque décevants. Mais certains ont quand même un peu le sens de la formule. Nous sommes dans un forum du Dark Web créé par des membres du site de rencontre Droite au Cœur qui trouvaient qu'on ne pouvait plus rien dire. Et en effet, sur ce forum, la parole est plutôt libérée puisqu'on peut entendre des choses comme...
Tu nous manques Hitler.
Oui, Carole Buisson, encore elle. Quand je vous dis qu'il faut enquêter, on a des dossiers, on a des documents.
C'est pas sympa d'avoir isolé ce son.
Bref, oui, effectivement.
Ça vient d'où, ça?
Il est un peu hors contexte.
Mais c'est une chronique.
Je pense qu'il s'agissait d'une citation.
Hein, Merci de le préciser.
Heureusement, ceci se passe dans les entrailles secrètes du web. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand des propos choquants sont tenus en pleine lumière, sur X. À l'époque, on disait même Twitter. Nous sommes en 2016, et d'après vous, qui est l'auteur de ce tweet tout en finesse? Quel est votre personnage féminin d'animé préféré? Pour ma part, c'est sans hésiter Inyata. Soumise, timide, attentionnée, énorme poitrine, elle a tout pour plaire. Et je vous apprends rien en disant que les femmes les plus discrètes cachent souvent un énorme appétit sexuel. Émoticône, petit bonhomme avec la langue qui sort. S. Nicolas B. Damien Rieux ou Jordan Bardella?
B.
C.
Bardella?
Ah, je l'ai dit, hein.
Et pour une fois, Manon, vous l'avez dit avant l'invité. Un point pour vous, Manon, oui, Jordan. Bien avant Marine, le premier crush de Jordan, c'était Inyata, une héroïne de manga. On l'aura compris, assez affriolante. Déjà en 2016, donc un très très grand respect des femmes. Tweet évidemment supprimé depuis, mais de nombreuses captures d'écran circulent encore, car prenez-en bonne note en régie, Cyril, avec vos tweets rageux sur les véganes et les cyclistes, Internet n'oublie rien. Enfin, attention, top! Bien avant les réseaux, les selfies, les buzz, était l'affiche. Alors, Manon, Quentin, c'est pas facile à décrire, c'est un peu comme un post Instagram, mais collé sur un mur. Hein. On peut pas liker ni
comme
reposter.
La vôtre dans
mais
le
c'était
couloir.
Ainsi. Exactement.
Vous êtes tout seul dessus.
Oui, pardon. Le mec, il veut toujours être sur l'affiche. Bon, l'année prochaine, tu seras sur l'affiche. D'après vous, lequel de ces slogans a vraiment figuré sur des affiches de campagne électorale? Donnons un avenir à nos enfants blancs. Touche pas à ma souche. Ou Simone Veil sur la dénatalité, pensez à vos retraites.
C'est évidemment, c'est donnons un avenir aux enfants blancs qui a été utilisé par le...
Mais la C aussi?
La C aussi, oui. Non,
ah, bonne réponse de nos invités. Bien avant Quentin.
Oui,
vous répétez comme un perroquet ce que disent nos invités. C'est comme ça que vous allez marquer des points. Bon, bonne réponse de Pierre et Maxime. Réponse A et C. Un message clair vaut mieux qu'un grand discours. Ainsi, on a décidé le Parti de la France qui n'a présenté qu'un seul candidat, Pierre-Nicolas Nupes, et non pas Nupes, dans la 5e circo de Meurthe-et-Moselle avec ce slogan imparable, donnons un avenir à nos enfants blancs, le tout sur une photo d'un petit garçon blond aux yeux bleus. Et la bonne nouvelle, c'est que c'était pas en 1924, mais en 2024.
Ah oui.
Enfin, quant au jeu de mots audacieux sur Simone Veil, il est à mettre au crédit du Front National en 73. On est à deux doigts du complot juif en l'an 25, avant la dédiabolisation. Victoire massive, impressionnante de nos invités, comme quoi c'est vraiment des journalistes spécialisés dans l'extrême droite.
Ils ont gagné leur livre, du coup.
Ils ont gagné leur livre. Et je vais leur dédicacer leur livre. Ça va être
un grand plaisir.
Le pop fascisme ou comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet, c'est le titre du livre de nos invités cet après-midi, Pierre Plotu, Maxime Massé. Alors, on a dit, les observateurs politiques en particulier, que Jordan Bardella avait gagné les élections européennes grâce à TikTok. Alors, c'est vrai qu'il cumule près de 2 millions de followers. Est-ce que c'est aussi simple que ça ?
C'est pas forcément uniquement grâce à TikTok, mais je pense que TikTok a joué un rôle dans sa dédiabolisation personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, Jordan Bardella, c'est quand même un jeune premier au Rassemblement National. C'est quelqu'un qui grenouille depuis très longtemps dans les instances, mais qui a eu assez peu de responsabilités avant d'obtenir un porte-parole là. Donc finalement, il est obligé de se créer un narratif autour de lui, de se donner de l'importance. Et il va se servir des réseaux sociaux pour le faire. Mais ce que comprend parfaitement Bardella, c'est que même s'il a, il n'est pas passé très très loin du pouvoir, il faut qu'il construise quelque chose sur la durée. Et on le voit en allant sur son compte TikTok, il est tout à fait capable de se mettre en scène en mangeant une pomme, en mangeant des bonbons, pour en fait toucher un public qui peut-être pour l'instant ne vote pas. Mais qui va voter et qui va grandir avec lui et qui a peut-être par contre des parents ou des proches qui votent. Et on sait très bien qu'il y a des interactions entre les mineurs et les leurs parents, pardon, et on peut aussi influencer comme ça.
On l'a entendu d'ailleurs dans la rue tout à l'heure, une jeune femme qui suit Jordan Bardella, elle dit il ressemble plus à un influenceur qui emprunte les codes, qui emprunte des codes de jeunes qu'à un homme politique. Est-ce que la stratégie va être payante sur le long terme? Est-ce qu'il peut vite devenir ringard?
Ça, c'est le risque, hein, comme pour beaucoup de gens. Mais après, Jordan Bardella, il a quand même une force. Il a grandi avec Internet. Il a 28 ans. Il est d'une génération avant même la vôtre, hein, vous qui êtes déjà très jeune. Jordan Bardella, il a grandi avec tous ses codes. Il a lui-même essayé de faire des vidéos sur YouTube. Il a lui-même joué
aux
jeux vidéo, merci. Il a lui-même fréquenté jeuxvideo.com, son forum, etc. C'est quelque chose qu'il a internalisé, qui fait partie de lui. Et donc c'est très difficile, je pense, de se ringardiser, c'est-à-dire de faire une faute de goût quand c'est quelque chose qu'on pense, quand c'est quelque chose qu'on a intégré.
Pierre et Maxime, votre livre, il explore toutes les ramifications de l'extrême droite sur les réseaux sociaux jusqu'au plateau télé. Dites-nous, en enquêtant dans ce milieu, vous avez subi des menaces parfois graves ?
Oui, très régulièrement.
De la part de qui ? De gens identifiés ? Ou c'était des menaces anonymes ? Comment ça s'est passé,
en fait,
Maxime ?
Il faut comprendre que rarement les influenceurs vont se mettre à menacer ouvertement des gens, parce que c'est quand même des gens qui ont peur de la justice, parce qu'il y a aussi des business à perdre. Par contre, en fait, ils agrègent autour d'eux une très importante communauté de gens qui, sous pseudo ou sous leur vrai nom, vont, pour plaire à leur influenceur préféré,
aller plus loin,
toujours aller un peu plus loin. Et effectivement, ça nous est arrivé, ça nous arrive encore. Et
il y a un phénomène de meute aussi.
Il y a un phénomène de meute, voilà.
Comment expliquer que des influenceurs d'extrême droite américains soient bannis, par exemple, de TikTok, de YouTube, assez régulièrement, et pas en France ?
Alors, comme on le disait avant, en France, Twitter a eu une position de bannissement et de clôture de compte pendant un temps. Désormais, c'est un peu moins le cas. C'est plus le cas sur YouTube, en fait, où on va trouver des sanctions qui vont être imposées. Parfois, c'est des sanctions uniquement financières. On va démonétiser les vidéos et après, des clôtures de compte. Après, il faut aussi voir que dans le monde anglo-saxon, il y a encore énormément d'influenceurs sur qui vont avoir accès aux réseaux sociaux. En France, on peut pas dire qu'il y en a pas du tout. Par contre, effectivement, c'est un peu moins...
Et puis ils sont peut-être plus extrêmes aussi dans leurs propos.
Alors, pas forcément, mais c'est des entreprises anglo-saxonnes à la base. Voilà. Donc en fait, c'est terrible à dire, mais ils commencent par faire le ménage chez eux avant de s'intéresser aux autres, disons, aux autres langues.
D'autant que la France est quand même un petit marché. Maintenant, le pire du pire du pire ne peut quand même pas se dire sur Twitter. Même aujourd'hui, voilà, je pense à des gens qui glorifieraient le nazisme, etc. Ça existe. Allez chercher sur Twitter des gens qui du négationnisme, etc. Malheureusement, il y en a. Il y en a toujours eu. Le coup près finit quand même par tomber.
Et vous dites l'extrême droite a gagné la bataille culturelle, mais vous nous disiez pas la guerre. Comment on peut gagner la guerre, sachant qu'il y a quand même un problème qui est lié à l'algorithme et au fait que le mensonge se propage plus rapidement que la réalité sur le net. Donc là, ils auront toujours un temps d'avance.
Oui, mais en fait, là, ce qui joue, c'est pas une question de mensonge, c'est une question de... Il s'agit de convaincre les cœurs convaincre les esprits avant de convaincre les bulletins de vote. Et pour ça, je veux dire, c'est presque... on est une période où l'esprit canal, ce qu'on appelait l'esprit canal à une époque, qui a pu bercer toute une génération, SOS racisme, etc. Il y avait un élan qui était plutôt progressiste, parce que la société était beaucoup plus fermée, beaucoup plus...
Notez, c'est toujours l'esprit canal, finalement.
c'est juste que le canal a changé aussi. mais voilà, c'est la question, c'est est-ce que la gauche est capable aujourd'hui d'aller chercher les gens? Et on l'a vu pendant ces législatives. Je veux dire, il y a des gens, des influenceurs extrêmement suivis, les plus suivis, dont les métriques sont bien supérieures, très très largement supérieures à celles de la fachosphère, qui se sont engagés alors qu'ils ne parlent jamais de politique. Parce qu'à un moment donné, là, tout le monde s'est dit, mince, ça y est, c'est maintenant, ça arrive, ça devient vrai et concret.
Vous écoutez France Inter et à l'heure qu'il est, on est toujours sans nouvelles, de Carole Buisson. Il n'y a toujours pas de nouvelles. Vous aviez combien de matchs sur Droite au cœur?
Apparemment, ça va fermer Droite au cœur. Donc, voilà.
Mais allez vite voir, vous avez peut-être des matchs encore.
Ouais,
Manon, la personne à suivre, s'il
vous plaît. Je vous présente Marie Kinski. Elle a 36 ans, elle est française et c'est une star très controversée.
Ce qui fait nation, ce n'est pas leur veau d'or du foot à la gloire de la diversité, mais bien l'histoire, la culture, la civilisation. Oui. Ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre ensemble.
Marie Kinski est une humoriste conservatrice qui manie les réseaux sociaux comme personne, sauf que elle a pour particularité d'être un personnage fictif. Elle est l'antagoniste de la série La Fièvre, sortie sur Canal+ en début d'année, une série qui analyse et décrypte le rapport de la société aux réseaux sociaux. Elle suit notamment l'histoire d'un joueur de football noir qui donne un coup de boule à son entraîneur blanc. L'image devient virale, la France se scinde en deux, les extrémistes racistes d'un côté, VS les militants de gauche de l'autre. Et parmi ce petit monde, il y a donc Marie Kinski, interprétée par Anna Girardot, qui devient l'icône de cette droite identitaire sur les réseaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment elle arrive à ses fins, comment elle manipule l'opinion publique à base de vidéos sur TikTok dans le seul but d'obtenir un poste en politique. C'est un personnage très ambigu parce qu'au final, on ne sait même pas ce qu'elle pense réellement, si elle est vraiment d'extrême droite ou si c'est juste un jeu pour elle. Le créateur de la série, Eric Benzekri, l'a définie de cette façon. Marie Kinski, c'est ça, un monde des écrans, un monde du spectacle, un monde du trop. Elle est trop belle, trop violente, trop séductrice, trop dérangeante. Et ce trop-là, c'est le trop des réseaux sociaux. Alors, il n'a jamais voulu dire de qui le personnage s'inspirait, mais difficile de ne pas y voir un peu de Thaïs Descuffons, on en parlait tout à l'heure, cette ancienne de génération identitaire devenue très influente sur les réseaux en prenant des valeurs traditionnelles et anti-féministes. Cyril Hanouna avait voulu l'embaucher pour son émission sur Europe 1, mais même pour la radio de Bolloré, elle était trop problématique. Il n'empêche qu'aujourd'hui, elle cumule des centaines de milliers de followers sur ses réseaux. La seule différence avec le personnage de Marie Kinski, c'est qu'elle ne fait pas d'humour. Pourtant, vu certains de ses tweets, on pourrait penser qu'elle a du second degré. Je vous en lis un de ses derniers en date. « Je n'ai posté et ne posterai jamais de photos en maillot à moitié dénudée ou en lingerie, car je suis la future épouse d'un homme. » Alors, ça nous fait sourire. Et pourtant, ce tweet a été vu plus d'un million de fois et liké quasiment 10 000 fois. La réalité est parfois bien pire que la fiction.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Avec lui, les minutes ne font pas toujours précisément 60 secondes, mais au moins, grâce à Pierre Courade, le Jamy Gourmaud du Gai Savoir, on peut avoir un résumé de toute l'émission en une minute chrono, en plus ou moins chrono. Bonjour Pierre Courade.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Jamy, c'était vous?
Eh ben allons-y, hein, rien de tel que prendre une petite dose de fascisme pour terminer la semaine, Mathieu. Même si les pop, ça n'en reste pas moins une tendance extrêmement dangereuse qui s'immisce dans les moindres recoins d'Internet jusqu'à infuser la pensée d'un certain nombre de médias classiques. C'est en tout cas ce qui ressort de l'enquête de nos deux invités, les journalistes de Libération, Pierre Plotu et Maxime Massé. 10 ans d'enquête, car le pop-fascisme, ça ne date pas d'hier. Nos deux invités nous ont rappelé que le premier blog politique en France a été créé par le Front National, ancêtre du Rassemblement National. Et très vite, d'autres médias alternatifs d'extrême droite ont vu le jour, comme F2 Souche, ce qu'on appelle la fachosphère en fait, et donc très implantée depuis les origines du web. Elle gagne les forums de discussion, on a cité celui de jeuxvideo.com. L'intérêt est simple, à supprimer les intermédiaires, à les journalistes, pour diffuser les messages directement, sans contradiction. Et ça marche, poussé par les algorithmes des réseaux sociaux qui favorisent les clashs, les messages clivants. Et du coup, les comptes des influenceurs d'extrême droite explosent, les médias classiques s'en emparent, les invitent sur leur plateau, utilisent leur code et voilà comment les messages de haine autrefois cantonnés au web se retrouvent désormais à la télé, à la radio et dans la presse écrite. D'autant plus que la nouvelle génération de leaders politiques d'extrême droite, comme Jordan Bardella, a baigné là-dedans. Le président du du RN manie à la fois TikTok et les plateaux télé. Comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet? Vous avez maintenant la réponse.
On a la réponse en quasiment une minute chrono.
Vraiment.
On a dit des trucs vachement plutôt deux.
On a dit des trucs vachement cool.
Ouais, vous avez des trucs super
impressionnants.
Pour savoir plus, lisez quand même le livre. N'oublions pas de faire la promo du livre, messieurs.
Abonnez-vous, achetez-le.
Bien sûr. Merci Pierre Courade. Et pour conclure cette émission, on retrouve une humoriste qui nous revient avec les pommettes rougies, le teint hâlé, le nez pelé. Elle n'a pas gravi l'Everest, mais semble tout de même revenir d'une expédition lointaine. Bonjour Lucie Carbone.
Bonjour tout le monde. Bah écoutez, je suis bien heureuse d'être là parce que je reviens de loin. J'ai voyagé en TikToky. Sacré contrée, hein. Alors là, physiquement, j'ai l'impression de revenir du front, alors que intellectuellement, je suis jetlaguée. Et j'ai même pas bougé de mon canapé. Alors au début, impeccable, hein, je me baladais au milieu des chats et des golden retrievers, et puis à un moment, sans crier gare, il y a une vidéo de Antoine Mandela qui a poupé. Antoine Mandela. Je suis désolée, je peux pas dire plus fort, parce que je prends des risques, hein. Et moi, je peux vous dire que j'en ai vu des pop-up, mais alors celle-ci, ah, elle m'a fait des bleus aux yeux, quoi. Vraiment, hashtag Arnica. Alors, j'ai passé 2 secondes hein, sur la vidéo. 2 secondes, juste le temps de me dire « Oh, qu'est-ce qu'il raconte ?»« Rien. Oh, chat trop mignon !» Eh ben, ça a suffi à TikTok pour penser que j'avais changé de bord. Voilà. Je me suis retrouvée au milieu de tellement de fleurs de lys, j'ai cru que c'était de saison. Ensuite, j'ai eu des suggestions d'abonnement à des comptes comme Gaulois Vénère, Maréchal Nous Voilà, ou encore Jeanne d'Arc avec un K. Genre l'algorithme, en fait, c'était le serpent dans le livre de la jungle, tu sais. Et confiance, abonne-toi, fuis fioti, arrête. Et le pompon, alors là où tout a failli basculer, ça a été les tutos de néo-féministes identitaires pour faire une épilation minute. Sif compris. Et je sais pas pourquoi on nous recommande autant le sif. Donc, pour me calmer, j'ai dû écouter un podcast sur Anna Arendt, hein, histoire de redescendre. Oui. Je me suis fait 2-3 caches investigations, histoire de revenir dans la lumière. Mais moralité, parce que j'ai l'impression que vous avez pas compris, l'algorithme a failli me radicaliser. Alors qu'il est même pas barbu quand même. Donc, je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais depuis le début, je ne nomme personne. Hein, parce que déjà, c'est pas bien de pointer du doigt. Et ensuite, quand tu nommes quelqu'un de la bande, à tout moment, il y a un jardinier transi des fleurs de lys qui sort de sa tranchée pour t'envoyer un raid sur tes réseaux. Tu vois, genre tes commentaires, c'est plus un fil, c'est une plage de Normandie, ambiance était 44. Féministe de merde, islamo-gauchiste. Pendant que toi, t'es là derrière ton bunker 15 Pro Max 240 gigas. Ah, je sais pas ce que ça veut dire, mais je vous envoie quand même des rafales de cœur avec les doigts. Ah, donc le combat politique se fait sur les réseaux sociaux. C'est donc sur TikTok que l'extrême droite fait le buzz. En même temps, vu qu'en 30 secondes, globalement, on attend de rien dire, est-ce si décollant? Ah non, mais sérieux, faire un programme politique, apparemment, ça fait vieux jeu, alors que faire des POV, des point of view, eh ben ça fait des vues. Voilà, il n'y a aucun fond, mais c'est joli. C'est comme choisir une voiture pour sa couleur, tu vois. Eh, le rouge, c'est canon, par contre, tu feras gaffe, ma belle, c'est une brouette. Donc tout ça, moi, ça me fait peur parce que la politique, je trouve que c'est de l'échange. Hein. Et là, je ne vois pas comment on peut prendre ce temps sur les réseaux dans la mesure où quand tu parles plus d'une minute trente, on te cut. Hein, t'imagines si pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait eu les réseaux sociaux? Genre, comment elle aurait été en galère, la community manager de Gaulle? Charles, pense à FaceTimer Jean Moulin 33 pour une collaboration. Pardon, une collab. Non, parce qu'il a quand même 400 000 abonnés quand même. Hein. Donc, un réel et bon hashtag et hop, ça part en buzz. Par contre, tu fais 5 secondes, hein, sinon l'algo, il pousse pas. Donc, juste en fait, vous dites coucou la commu, allez la paix. Voilà. Allez, ça me fait penser que sur ce, j'arrive quand même à mes 3 minutes réglementaires. De toute façon, même si je fais plus long, eh ben, ce sera pas Insta Compliance. Ni TikTok friendly. Donc il ne me reste plus qu'à vous laisser avec un coucou la commu, allez la paix.
Merci Lucie Carbone. J'ai cru que vous allez imiter le général. Et ça aurait été un grand moment de radio, probablement, la prochaine fois. Merci Lucie Carbone. On peut vous retrouver un peu sur TikTok, mais surtout au théâtre du Point Virgule, les vendredis et samedis, pour votre spectacle Jour de Fête, et aussi en tournée mondiale, en France pour l'instant. Merci Pierre Plotu et Maxime Massé de nous avoir expliqué les dangers du pop-fascisme, et non pas du post-fascisme, quoique le post-fascisme soit dangereux aussi. Je rappelle votre livre Pop Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet. C'est aux éditions Divergence. Zoom Zoom Zen.